Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Ô Dieu, notre Père, nous te prions pour que ton Esprit illumine nos cœurs, afin qu'à nouveau nous découvrions ce matin à quelle espérance tu nous appelles et quelle grandeur s'attache à ton nom. Alors Seigneur, fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous Jésus-Christ, lui qui est parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Nous lirons tout d'abord dans l'Ancien Testament ce passage fort connu au livre d'Ésaïe, au chapitre 11, les versets 3 à 10. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'on fonde la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Comme seconde lecture, en ce temps de l'Avent, de quatrième dimanche, nous prendrons dans l'Évangile de Luc le Magnificat de Marie, à partir du verset 45 jusqu'au verset 55. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui l'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Frères et sœurs, chers amis, la fleur fane, l'herbe se dessèche, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. âme exalte le Seigneur. Au matin de ce jour, un temps de paix nous est donné. Un temps pour accueillir très simplement une parole qui nous touche profondément, le Magnificat de Marie, ou au moment où elle apprend le projet de son Seigneur, le projet de se faire connaître différemment à travers un être humain, exemplaire en parole et en acte. Ce projet de Dieu pour notre humanité, nous en souvenons plus particulièrement chaque année au temps de la période liturgique de l'Avent. La particularité de l'Avent, début de l'année liturgique d'ailleurs, c'est l'attente de quelque chose qui, comme ses origines latines l'indiquent, ad venere, quelque chose qui doit arriver, qui doit se produire, qui doit advenir, et ce terme signifie aussi l'aventure. Le temps de l'Avent reflète ainsi une double caractéristique qui s'exprime d'une part dans la préparation joyeuse de la fête de Noël et d'autre part dans l'attente du retour mystérieux du Messie à la fin des temps. Nous voici donc, en ce quatrième dimanche de l'Avent 2022, en communion profonde avec l'Église universelle, avec tous nos frères catholiques, protestants, orthodoxes du monde entier, réunis en celui qui a changé à jamais le cours de l'histoire et de nos existences. Nous voici donc en train de faire mémoire d'un homme à travers lequel ses disciples et ses amis ont entendu et reconnu la parole du Dieu vivant. Cet événement appartient à l'histoire de chaque croyant qui a rencontré Jésus de Nazareth dans sa vie. Mais il appartient aussi au futur de tout homme et de toute femme qui accepte la possibilité d'une telle rencontre. L'Avent est donc un temps d'attente et de joie qui est si bien illustré par le Magnificat de Marie. Mais au fait, me direz-vous, qui est précisément Marie, cette jeune femme qui nous parle de Dieu d'une façon accessible, voire même d'une façon familière. Martin Luther, dans son commentaire sur le Magnificat, formule la considération suivante. Personne ne peut bien comprendre Dieu et la parole de Dieu si cela ne lui est donné sans intermédiaire par le Saint-Esprit. Marie a donc été choisie par l'Esprit Saint, une jeune femme parmi d'autres, qui, selon les mots employés par le réformateur, était, je cite, chargée parmi ses voisins et leurs filles des soins du bétail et de la maisonnée, en tout point égale, sans aucun doute, à telle servante de maintenant qui fait ce qu'on lui ordonne de faire dans la maison. Fin de citation. Mais Marie va être littéralement transformée par l'entrée soudaine inattendue du Seigneur dans son histoire personnelle. Alors, elle ne sera plus la servante de la maison, car elle devient la servante du Seigneur. Son rôle désormais, comme celui d'un prophète, change du tout au tout, c'est d'annoncer l'accomplissement de l'incarnation de la parole divine dans un être humain. De ce fait, la servante du Seigneur est devenue une femme libre, libre de toute contrainte, une femme qui ose exprimer droitement la parole de Dieu. Elle n'a désormais qu'un seul maître, l'Éternel, dont elle est la servante. Vous savez qu'elle restera toujours d'ailleurs, car c'est elle qu'on le retrouve au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 14, avec d'autres femmes et les frères de Jésus, persévérant dans la prière, comme il est indiqué. Le mot grec, quand on l'a traduit par servante ou esclave, désignait au premier siècle de notre ère la condition d'appartenance, plus que la condition matérielle. En d'autres termes, si l'on voulait aujourd'hui traduire par une périphrase le mot « servante » employé par Luc, on pourrait plutôt dire « je n'appartiens qu'au Seigneur ». Ceci nous permet de comprendre Marie non pas comme un simple intermédiaire dont Dieu se sert, mais comme une femme à qui, dans la liberté de son esprit, Dieu propose un défi inouï et incroyable dont les conséquences dépassent toute imagination. Dans l'humilité de son existence, Marie accepte pleinement, joyeusement, l'irruption libératrice de Dieu. Elle apprend, je cite encore le commentaire de Martin Luther, que Dieu est un Seigneur qui a pour unique occupation d'élever ce qui est bas et d'abaisser ce qui est élevé, bref, de briser ce qui est fait et de refaire ce qui est brisé. Quelle jeune femme étonnante, quand même, cette Marie de Nazareth, qui chante le Magnificat comme un chant de victoire, exactement d'ailleurs comme plusieurs des psaumes de David dont elle s'est inspirée. Elle se réjouit de la naissance d'un enfant pratiquement dans les mêmes termes qu'une autre femme de la Bible, Léa, dont nous parle le livre de la Genèse au chapitre 30. Une histoire bien différente au demeurant. Léa, qui voulait absolument donner un fils à Jacob, son époux, et qui, après lui avoir proposé de s'unir à sa propre servante, car elle-même ne pouvait plus avoir d'enfant, s'est réjouie pleinement de la naissance de ce fils, bien qu'il ne soit pas le sien. Léa qui exulte en prononçant ces mêmes paroles, « Toutes les filles me proclameront bienheureuse. » Oui, Marie nous fait comprendre la naissance d'un enfant non seulement comme un événement merveilleux, non seulement comme l'occasion d'un bonheur, mais aussi et surtout comme une promesse tournée vers l'avenir. Oui, Marie nous remémore la promesse faite jadis à Abraham, celle que toute l'humanité a un avenir. Comme l'enfant qui naît porte en lui toutes les promesses de ceux qui l'aiment. Et chacun d'entre nous, à sa manière, porte aussi en lui les promesses de ces seigneurs qui nous aiment. Ce que je vais dire ce matin avec vous, après avoir lu et entendu le Magnificat de Marie, c'est que nous est donné plus qu'une joie, c'est qu'il nous est délivré un message, une véritable prédication d'une bonne nouvelle. En effet, en quelques phrases, en quelques mots, Marie nous donne les éléments essentiels de l'Évangile. Elle, l'humble servante, se met au service d'un message qui concentre tout ce qu'elle a reçu de la tradition d'Israël, de sa foi, de son espérance. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa promesse, comme il l'avait dit à nos pères. Et ce message, toujours d'actualité, est si subversif que les dictatures latino-américaines des années 70 et la dictature chinoise récemment avaient demandé aux églises de retirer ces phrases du Magnificat, de la Bible même, et de sa lecture, bien sûr. Le cœur de cette prédication de Marie apparaît dès lors comme l'affirmation d'une promesse en train de se déployer à travers le monde, en train de donner toute sa mesure, même au-delà d'un peuple, une promesse pour tous les peuples de la terre sans exception, pour tous ceux qui pleurent, qui souffrent et qui s'épuisent à la tâche. La promesse d'une justice et l'espérance d'un salut universel. Marie est ainsi la messagère d'une bonne nouvelle qui concerne l'humanité brisée. Marie, et c'est toute la beauté et l'originalité de ce petit récit, déploie une bonne nouvelle, accompagnée d'un signe qui rend ce message audible et concret, un peu à la façon des signes de l'Ancien Testament qui accompagnaient la parole des prophètes. Ce signe, porteur de toutes les espérances à découvrir, à rechercher, à discerner, ce signe incomparable c'est un enfant à naître. Nous sommes donc conviés avec Marie à un émerveillement qui se dissimule derrière une banalité, la venue au monde d'un être unique qui n'existait pas auparavant et qui désormais impose sa personne de manière irrécusable, une sorte de miracle. En effet, toutes les mères qui m'écoutent ici savent bien que la vie plonge ses racines dans une profondeur que personne n'est capable de mesurer. Marie gardait avec soin toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie, par sa prédication de la grâce, montre ce qui va advenir en désignant le temps qui vient et où Jésus demandera « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il ne s'agit évidemment pas pour nous, protestants, de méditer sur Marie elle-même ou ce qu'elle peut représenter, mais de méditer sur ce message qu'elle nous délivre. Il ne s'agit pas de laisser nos regards s'attarder sur la messagère, mais de les porter sur celui qu'elle annonce qui vient, Jésus-Christ lui-même. Ainsi, le message du Magnificat est avant tout celui de la justice, d'une justice qui se ferait difficilement un chemin parmi les obstacles que les hommes posent devant elle, et en particulier ceux qui sont installés sur un trône, comme le dit le texte. Trône qui est le symbole de leur statut économique, social ou politique, trône des puissants qui empêchent une juste relation entre les hommes au lieu de la promouvoir. Mais une justice qui ne s'impose pas par la force, qui produit cependant petit à petit ses effets dans le cœur de tous ceux qui en entendent parler. Une justice humble, mais fermement racontée, psalmodiée, célébrée à travers les siècles, rêvée de génération en génération, murmurée dans les moments d'obscurité et de détresse. Le Magnificat de Marie est une célébration de la justice que celui qui l'a entendue n'oublie plus jamais. Il est aussi, dans ce temps de dérèglement climatique et de guerre à l'échelle du monde, le chant de la fidélité. Là où se défendent les liens entre les êtres, là où se brisent des solidarités à cause de l'égoïsme et de la méchanceté des êtres humains, à cause aussi de notre manque de courage et dans notre manque de souci du partage, le Magnificat chante une fidélité qui ne se dément jamais. Enfin, le Magnificat rappelle à nos mémoires oublieuses et distraites que le Seigneur, lui, se souvient de nous, que chaque jour peut soudain s'illuminer alors qu'on le croyait sans éclat. Il redit à nos espérances fatiguées, mais indestructibles, la promesse que le temps du salut est ici et maintenant, celui où advient Jésus-Christ, celui où il vient spirituellement vers nous et grandit en nous. La première à avoir reconnu ce temps et l'avoir chanté de tout son cœur et de toute sa foi, c'est Marie qui a porté ce chant de fidélité comme elle a porté, confiante et courageuse, l'enfant de la justice et de la fidélité divine. Et nous, désormais, après elle, gardons au plus profond de nos cœurs les accents joyeux et victorieux de son chant, nous devons porter à notre tour la même bonne nouvelle, en particulier là où règne la solitude, la tristesse, la pauvreté, la maladie. Comme Marie, nous devons devenir des porte-paroles de ce message de justice, et pas seulement, bien sûr, en cette période de l'Avent. Nous devons annoncer constamment, avec douceur et persévérance, que la parole donnée par Dieu sera tenue parce que nous nous y engageons. Et nous l'annonçons comme l'a fait Jésus, lui qui ne s'est jamais imposé par la force, lui qui n'a pas échappé aux épreuves, aux remises en question, aux doutes, à l'angoisse, lui qui a renoncé à tout pouvoir et à sa vie même, pour que son message d'amour demeure éternellement. Jésus, à qui le Seigneur rendit justice mystérieusement, lui qui se rend toujours présent parmi nous, qui se tient avec nous pour toujours recommencer, consoler, relever, redresser, lui qui a réalisé pleinement le Magnificat dans sa vie même, dans sa vie brisée, mais relevée, dans sa mort et dans sa résurrection. Lui que nous recevons et portons comme le signe ineffaçable de Dieu sur nos existences, lui est la promesse réalisée d'un monde nouveau à venir. Alors, frères et sœurs, chers amis, que ce message de Marie adressé au monde demeure en permanence dans nos mémoires, particulièrement quand la nuit vient et à chaque fois que les cris de détresse devant la justice nous transperce le cœur. Toujours nous entendrons alors ce que nous pensions avoir oublié, ce message de confiance dans la promesse fidèle de justice de Dieu notre Père, qui n'oublie et qui n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Oui, dans la joie comme dans la peine, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu. Il vient, il est même déjà présent, pour celui ou celle qui connaît et fait vivre cette merveilleuse relation avec lui. Soyons donc à l'image de Marie, laissons-nous féconder par l'Esprit Saint, laissons s'accomplir dans notre vie ce miracle. Par son souffle vivant, Dieu arrive à faire naître en nous une personne capable d'aimer, avec toutes nos limites humaines, à l'exemple de Jésus-Christ. C'est à chacun d'entre nous qu'est adressée cette bénédiction, nous disant qu'il y a tant à recevoir du Seigneur. Et comme Marie, nous pouvons espérer et rendre possible ce miracle en disant « Je suis l'enfant de Dieu, qu'il me soit fait selon sa parole. » Amen.